France Musique. Les grands entretiens. France Musique. Benjamin François.
Je suis ton copain, né à Zwolle dans les années 44. Je joue l'orgue, je joue le clavecin, je suis chef d'orchestre. J'aime de travailler avec le chœur. Je suis encore prof à Leiden pour musicologie, de musique baroque. Donc j'ai fait quelque chose.
Ton Kopman, vous êtes, je pense, très très intéressé par les instruments anciens, vous nous l'avez dit, les orgues, les clavecins, tout ça c'est votre monde. Et pourtant, à un moment donné de votre carrière, vous n'avez pas rechigné à diriger des orchestres modernes et à faire œuvre de pédagogie, je pense, pour que les musiciens des orchestres symphoniques comprennent quelque chose à la manière de pouvoir, j'allais dire, jouer la musique baroque et la musique classique. Expliquez-nous un tout petit peu cette, non pas ce changement, mais vous n'avez pas voulu, je pense, nous intéresser qu'au monde classique. Vous avez fait un pas vers les instrumentistes modernes.
Yeah. Le moment que Hanako a travaillé avec l'orchestre de Concerto, après 2 ans, avec lui, il y a d'autres sonorités. Qu'est-ce qu'il a fait? Ça m'intéresse beaucoup. Et je dis, OK, j'aime la sonorité de l'orchestre moderne, j'aime la technique de l'orchestre moderne, mais j'aime la musicalité de l'orchestre baroque. Qu'est-ce que je peux transporter chez eux? Et de travailler avec les orchestres modernes, oui, ça c'est maintenant un travail de 30 ans peut-être, chose comme ça. Et il y a des orchestres où je travaille déjà 20 ans avec Radio France, et aussi 17 ans, je pense. Et mais il y a les autres, les grands orchestres comme Boston, comme Chicago, tous les grands orchestres j'ai travaillé avec. Et je vois maintenant dans plusieurs orchestres où je suis régulièrement avec, comme Tonhalle à Zurich, maintenant pour l'audition d'un premier violon, on doit jouer le deuxième violon solo de Mathieu, Saint-Mathieu. C'est difficile,
très,
mais on entend quelque chose. Et aussi, les bons musiciens modernes trouvent ça c'est compliqué. Pas uniquement de jouer ça précis, mais de créer quelque chose.
Tout en travaillant avec les musiciens d'orchestre, vous ne vous êtes pas interdit d'aller au-delà d'une certaine date dans le 19e siècle. Et vous êtes allé, je crois, jusqu'au Requiem de Schumann pour ce qui est de la pièce
Schumann,
la plus moderne.
Yeah. Et avec mon chœur, j'ai fait en secret, dans le concert officiel, le Gypsy Leader de Brahms, seulement pour plaisir.
Et, il y a quelques... Brahms aimait quand même la musique ancienne.
Yeah. Il y a quand même... La 4e symphonie de Brahms, il y a le Requiem de Brahms, qui sont bien possibles que je fasse encore une fois. Mais j'ai besoin de temps, parce que j'aime pas de faire ça comme je connais bien la musique du 18e. Ça, je peux faire aussi. Parce que moi, j'ai tout le temps dit des chefs qui ont fait Mozart sans idée ou Bach sans idée. C'est dommage, parce qu'ils peuvent faire un meilleur travail. Et dans ce moment-là, pour moi, c'était pas encore clair qu'est-ce qu'on doit faire. Mais pour moi, écouter l'enregistrement de Harnoncourt, et ça, c'était un autre monde. Et ça, je trouve, ça, c'est un travail de plusieurs. Pas uniquement de Harnoncourt, pas uniquement de moi, mais il y a des autres aussi qui ont travaillé avec les orchestres modernes. Et heureusement, avant, on était des ennemis. Nous avons dit de l'orchestre concerto. Ils ont une technique, mais pas un goût. Et ils ont dit de nous, ils ont un goût, mais pas une technique. Et maintenant, les deux marchent ensemble. Le travail ensemble donne des choses à améliorer. On apprend beaucoup d'un à l'autre. Et ça, c'est positif pour toute la vie musicale.
Tonkoman, vous avez travaillé aussi avec certains solistes dans votre carrière, et notamment en violoncelle, Heinrich Schiff d'une part, et Yo-Yo Ma d'autre part. Comment a marché ce partenariat avec ces deux personnalités ?
Moi, je suis finalement accompagnoniste. J'aime de jouer basse continue sur le clavecin. Au moment que j'ai fait Haydn avec Yo-Yo Ma, ou je fais Haydn avec Schiff ou avec un autre, j'aime faire leur vie agréable. Je parle de détails, je demande est-ce que vous pouvez faire un peu moins de vibrato, ou quand Yo-Yo a le trac, il fait avec son archet un peu trop, mais de dire Yo-Yo prend le risque. Et il pense, ah, pourquoi pas. Il prend le risque, ça sonne autrement. Grand musicien, grand ami. Mais Heinrich Schiff, moi j'aimais bien travailler avec lui. Et c'était quelqu'un qui profondément aime la musique. Qui, dans la fin de sa vie, il était le père pour les élèves. C'était difficile pour lui d'accepter là. La dernière fois, c'était peut-être 2 ans avant sa mort, on a dîné encore à Vienne. Il connaît le meilleur restaurant, il aimait le meilleur vin. C'était un grand job, comme avec Jordi Savall, de payer. Parce qu'il a déjà payé, et quelquefois on a trouvé une manière d'aller aux toilettes et avant de payer, et on trouve, ah non, c'était déjà organisé, des choses comme ça. So, j'ai un bon souvenir avec lui, aussi de disques qu'on a fait, Jaap ter Linden, au violoncelle, pour le basse continu, et lui, avec musique de Vivaldi, pour Philippe, je pense. Ça, c'était un bon réussite. Heinrich était très très ouvert de changer des choses. Quelquefois des sonates qu'il a jouées 200 fois dans sa vie. Il dit, mais Heinrich, pourquoi tu fais pas un petit ornement, un petit chose, quelque chose? Pourquoi tu fais pas une grande ornementation ici? Parce que maintenant, je dom pom 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 pa di ta 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 ta. Fais d'en haut, fais d'en bas. Et il commence de sourire et dit, ça me coûte une très bonne bouteille de vin. Je dis, c'est pas grave. On a s'amusé bien et je trouve les bons musiciens sont capables de changer, surtout parce que j'aime pas indiquer, c'est moi qui sais tout et vous êtes idiotes. Moi, je travaille avec quelqu'un parce que j'apprécie qu'est-ce qu'ils font. J'apprécie travailler avec les bons musiciens, et s'ils ont une conviction très très forte de quelque chose, pourquoi pas le suivre?
Tonkoppmann, revenons peut-être un instant à l'enregistrement des cantates de Bach et parlons peut-être du chœur. Si j'ai bien compris, vous n'êtes pas du tout adepte du 1 par voix et les thèses de Joshua Rifkin ne sont pas vraiment votre tasse de thé.
J'ai discuté beaucoup avec Joshua. Il est un trop bon musicologue de ne pas savoir qu'il n'a pas raison. C'est trouvé ou publié dans 2010 par un collaborateur de Bacharchiv de Leipzig. Il a trouvé dans la bibliothèque de l'université un livre oublié par tout le monde que Bach a utilisé, et surtout les enfants de chœur, les sopranos, ont utilisé. Et les jeunes sopranos ont écrit leur nom avec une date. Le maximum de sopranos qui ont chanté ensemble, le parti, c'était 8. Le minimum, c'était 4. Minimum. Bach dit, donne-moi 3 et si possible 4, parce que ça me plaît. Rifkin dit, donne-moi 1, et c'est suffisant. Parce que Bach n'a pas eu un tel nombre de chanteurs. Parce que tout le monde était malade. Pourquoi pas chez Bach? si le garçon était malade au moment qu'il a un solo difficile à chanter, pourquoi pas Anna Magdalena a chanté dans un coin. Moi, c'est sûr, elle était une chanteuse professionnelle, elle était encore jeune, et on doit penser pratique aussi. Au moment que le grand premier violon qui joue avec Bach est malade, le solo doit être joué. So, Bach a pris le violon. Et peut-être dans le Saint-Mathieu, pour le deuxième air, il a pris le violon de premier orchestre et il a dit « Donne-moi ». Il a joué ça parce que il dit « Les gens sont trop vieux, ils peuvent plus jouer ». Et on peut dire « Ok, Bach n'a pas fait les Messanci, c'est sûr, mais il y a les autres cantates, il y a aussi Missa Brevis, du premier Kyrie et Gloria de Messanci, qui était exécuté à Noël dans le Saint-Thomas. Je veux dire, il était le musicien qui était capable de faire quelque chose, il était le cœur. On a toute la liste de, je pense, 1727 jusqu'à après sa mort. So, les enfants ont chanté, ont fait ça une fois dans 5 ans ou 4 ans. Il n'y a aucune fois 3, il n'y a aucune fois moins que 4. Et 4, c'est l'exception. 5, c'était normal. 6, une fois, pas 7. Et 8, une fois.
Tone Kopman, dans les choses particulières que vous avez faites autour de Bach, il y a cette fameuse enregistrement de la Passion selon Saint Marc, où vous avez composé vous-même les récitatifs, mais pas les chœurs ni les airs. C'est bien ça?
J'ai trouvé les chœurs, j'ai trouvé les airs, et j'ai changé tout, parce que Bach n'était pas heureux avec le Saint-Marc. Je peux trouver dans l'œuvre de Bach facilement la chorale. Un, c'est difficile, mais j'ai trouvé, c'est une seule possibilité pour ça. Les airs, il y a plusieurs qui donnent le même esprit. Le récitatif n'existe pas. Et pour les tourbées, pour les
la foule,
là, on doit couper les pièces. Bach a fait ça aussi. La Agnus Dei que nous connaissons de Messanci, il y a un parti B dans un cantate profond. Je veux dire, aussi Bach a fait ça.
Donc, parce que le système de la parodie.
Il y a. Le récitatif n'existe pas. Si on fait une combinaison avec Saint-Marc de Reinhard Kaiser, et maintenant on sait, c'était d'un oncle de Nikolaus Bruns, ça marche pas, j'ai trouvé. Je dis, ok, j'ai joué dans ma vie tellement de récitatifs de Bach, pourquoi je suis pas capable? Je suis un élève de Bach, je suis pas Bach. Et sur le niveau d'un élève, je pense que c'était pas mal, ça j'aime bien.
Kopman, un de vos premiers disques Erato était peut-être une flûte enchantée où il y avait Isabelle Poulnard, Marianne Kveck-Silber, une production scénique à l'ancienne avec des copies de décors originaux de ce qu'on a par exemple sur des gravures 18e siècle. Malheureusement, ça n'a été joué qu'en Italie, ça n'a pas été joué en France, je crois.
C'était à
Bologne. Et en Hollande, exactement.
C'était 4 fois à Bologna et c'était 4 fois dans le festival de Hollande.
Alors, Tone Kopman, qu'en est-il de votre amour de l'opéra? Je sais que vous allez de temps en temps à Bologne pour voir d'autres opéras qui n'ont rien à voir avec le répertoire baroque. Est-ce que ce n'est pas votre grand regret de ne pas vous être investi davantage dans cette direction?
Oui, c'est un grand regret, je dois dire. Mais moi, j'ai tout le temps détesté qu'on fait une œuvre baroque avec les instruments corrects, avec la voix plus ou moins correct, et avec la mise en scène, pas correct du tout, parce que doit être neuf. Et Bill Christie a fait, dans le début de son carrière, les opéras de Lully, dans la mise en scène ancienne. Moi, j'ai aimé ça beaucoup. Pour moi, de faire le Mozart, je suis enchanté dans le décor ancien. Ça, c'était pour moi un rêve de faire. Mais il reste plusieurs rêves. J'ai, dans ma vie, fait plusieurs opéras de Handel, mais pas en scène. De faire ça avec un metteur en scène qui connaît cet répertoire-là. Et je dois dire, c'est mon rêve de faire un Orfeo de Monteverdi. Parce que ça, c'est quand même une œuvre où le chef doit être le meilleur claveciniste possible. Parce qu'il y a tellement de récitatives, de choses pour clavecin. On doit avoir le maximum de fantaisie pour faire. Parce que c'est un chef d'œuvre que j'aime beaucoup. Mais il y a des autres choses. Un opéra de Cavalli, c'est la musique que j'aime beaucoup. Handel, j'aime beaucoup. Pour le compositeur dans le 18e, c'était pas nécessaire chaque fois d'être original. Et je pense que c'est la tristesse pour un metteur en scène aussi. Il doit être chaque fois original. Et je pense, avec un metteur en scène qui est vraiment créatif, Bill Christie a démontré ça, on peut faire quelque chose. Pour moi, commencer avec un Orfeo de Monteverdi, quelque part avec des instruments anciens, avec une mise en scène ancienne, et avec un chanteur, pas avec une wobbling voice, mais avec un vibrato normal, et quelques Italiens aussi, parce que je trouve quand même la langue, c'est important aussi. Le Orfeo, j'ai fait avec Hanoncourt plusieurs fois en Hollande, pour l'opéra ici, avec le Concertus, et c'était Zaslo, quelqu'un comme ça, un ténor, qui a fait le premier rôle, avec un vibrato normal, de créer un grand Orfeo, je trouve, très très bien. Parce que ça, c'était la seule collaboration avec Hanoncourt que j'ai eue dans ma vie. Ein Mädchen oder Wahrheiten wünscht Papa gegen Musik. Oh, so ein sanftes Zeugen, wer Seligkeit für mich. Wer Seligkeit für Verseligkeit für mich. Denn schmecken wie trinken und essen, das könnte ich mit Fürsten nicht messen. Es wäre das Weiße nicht frei, und bitte mit diesem Buch sein.
Tone Kopman, vous faites partie des chefs d'ensemble qui sont revenus régulièrement jouer avec Jordi Savall. Vous avez accompagné Montserrat Figueras. Qu'avez-vous trouvé dans ce compagnonnage avec Jordi Savall et Montserrat Figueras?
Yeah. Non, c'était vraiment deux familles. Comme Nicolas Hanoncourt a dit une fois, de lui et sa femme, et lui et sa femme, c'était deux grands amis. Et avec Jordi, c'est le même. Et avec Montserrat, c'est le même. Tini aussi. On était vraiment des amis. Pour longtemps, Jordi m'a invité au moment qu'il a fait son premier opéra à Barcelone, parce qu'il dit, tu dois être là. J'ai invité pour mon premier Vêpres de Monteverdi. On parle encore avec ensemble, on discute. Au début, il a eu une collection de livres anciens plus grande que le mien. Le grand souvenir que j'ai encore des concerts que nous avons fait à toi, Montserrat qui a chanté et qui était un personnage unique, qui a chanté très émotionnel, très naturel, Jordi Gambe. Et on a trouvé dans l'après-midi, quelque part, on a répété un peu, le soir, le concert, après un dîner, et à la prochaine. Et c'était comme ça. J'ai rencontré Jordi et Montserrat dans le même moment que mon épouse à Staufen. Et Jordi, comme d'habitude, il arrive pour les répétitions le même jour, en retard. C'était prévu de commencer les répétitions à 10h. Il vient de Bâle à Stauf, c'est demi-heure par train. Il a dormi dans le train, il est arrivé à Francfort. Soit il est arrivé jusqu'à temps pour prendre le lunch ensemble. Et avant, on a joué 10 minutes, et c'était clair, on peut jouer ensemble. Soit on a dit, ah, il a un concert ce soir. Soit on a fait peut-être encore une répétition de 1 heure maximum. Et on a fait le concert après. Oui, c'était un début d'une amitié. Et ça, c'est le moment où Montserrat a enregistré le Lamento de Madonna, le meilleur enregistrement de cette œuvre que je connais. C'était vraiment, tout le monde qui a écouté ça était presque en pleurant. C'était tellement émotionnel et tellement beau.
Tone Kopman, terminons par votre conception de la musique. Pour vous avoir écouté en concert et au disque, j'entends beaucoup de joie dans vos interprétations, une joie sereine, lumineuse, faite pour divertir, en élevant vos auditeurs, et ce même lorsque vous dirigez un requiem. Est-ce l'image du musicien que vous aimeriez léguer à la postérité ?
Ah, je trouve ça très important, parce que dans un requiem, comme Mozart, le Dies Irae, quelle joie ! Et quelle force qu'il a. C'est pas nécessaire de regarder tout le temps triste parce que c'est un requiem. Il y a un moment splendide, comme le Dies Irae. Il y a le moment Dona Nobis Pacem, qui me fait des larmes dans mes yeux. Mais si on fait le grand fugue dans la fin de requiem, ça c'est un fugue qui peut être aussi dans une autre messe, pas une messe de mort. On doit être triste au moment qu'on est triste. On doit être heureux ou encore heureux. Mais surtout, j'aime le mot « have fun ». Ça, c'est ce que j'ai dit avant de faire un concert, et ça peut être une musique triste. Aussi, « have fun » d'une autre manière. Peut-être que j'ai dit « pas trop ». Mais ça, c'est une raison pour aller au concert, pour écouter en live un concert. Et c'est notre expérience qu'un disque.
Et la belle vitalité qui vous anime, Tone Kopman, à un âge mûr maintenant, qu'est-ce qui vous fait tenir? Quel est votre carburant au quotidien?
Je fais très peu d'exercices.
Mais pas sportif.
Non, j'ai fait quelquefois les jeux avec mes enfants, mes petits-enfants maintenant, comme Monopoly, les choses comme ça.
C'est pas très sportif.
C'est pas très sportif. Mais quand même, je bouge assez. Moi, je suis 76. Encore, ça me fait grand plaisir de faire la musique et d'inspirer les autres, mais aussi inspirer le public, parce que c'est important pour la vie, pour tout le monde. Soyez joyeux avec ça, avec notre esprit.
Merci beaucoup, Tone Kopman.
Merci, grand merci.
Extrait de l'Agnus Dei de la messe en si mineur BWV 232 de Johann Sebastian Bach par l'Amsterdam Baroque Orchestra and Choir et Tone Kopman à la direction. Et c'est sur ces notes que s'achèvent les grands entretiens de ce grand musicien hollandais qui nous aura occupé toute cette semaine. N'hésitez pas à nous rendre visite sur les pages de cette émission qui s'écoute autant de fois que vous le voulez sur francemusique.fr. Et merci à Romain Luquiens, Jean-Louis Deloncle, Flora Sanadel et Gilles Blanchard à la réalisation.
À réécouter sur francemusique.fr.